toujours et toujours la faute de Pirelli, pas vrai ? Je pense qu'il est nécessaire de clarifier quelques points concernant les récentes polémiques au Grand Prix du Qatar. Une usure anormale inquiétait Pirelli et la FIA et a conduit à l'introduction d'une règle provisoire de dernière minute, l'interdiction de faire dépasser les 18 tours de vie à un train de pneus. Déjà en 2021, la question pneumatique inquiétait pour ce Grand Prix. Il est sans conteste un des plus rapides du calendrier, avec principalement que des virages rapides, à l'instar d'un Silverstone célèbre pour ses explosions pneumatiques au cours de cette dernière décennie. Mais j'ai l'impression qu'un autre point est trop éludé, celui de la tronche des vibres rasoirs qui a forcé la FIA et les organisateurs à improviser la modification des limites de piste en peignant de nouvelles limites de piste pour que les pilotes n'aillent pas sur les vibreurs. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus pour blanchir Pirelli dans cette affaire. Un pneumatique, une roue, un truc rond qui va très vite et qui se déforme à haute vitesse n'est pas adapté pour rouler sur une surface pointue. Quel que soit le manufacturier, ça, un enfant de 5 ans a compris qu'il fallait pas planter une épingle dans son ballon. Mais je profite de l'occasion pour revenir sur ce sujet qui laisse toujours place à des arguments trop peu informés à mon sens. Je vous invite donc à nous replonger sur ces 12 dernières années de polémique pour mettre en lumière la source initiale du problème Pirelli. Ça fera un bon titre, ça. Depuis leur retour en Formule 1 en 2011 en tant que manufacturier unique, Pirelli est la cible de beaucoup de critiques. De pneus trop solides à pneus chewing-gum, on les accuse d'être un des facteurs du manque de compétitivité des Grands Prix, ainsi que de nombreux accidents à haute vitesse, forçant les pilotes à rouler à l'économie, et avec un Grand Prix du Qatar donc à 3 arrêts forcés, les pilotes ont pu donner une performance bien différente qu'habituellement, renforçant cette idée. Accusation justifiée ? Exagérée ? Dans l'analyse du dimanche, nous essayons de comprendre le présent en comprenant le passé, donc pour répondre à cette question, remontons le temps aux années 2000, qui commençait avec une guerre sportive et politique entre Bridgestone et Michelin. Bridgestone faisant les belles années de Ferrari, tandis que les autres équipes étaient forcées de se rabattre sur Michelin pour tenter de les battre. Après une domination aberrante en 2004, où Ferrari excellait sur l'exploitation des Bridgestone sur les très courts relais, la F1 a décidé d'interdire les changements pneumatiques pendant la course en 2005. Les pilotes devaient avoir les mêmes gommes de la qualification au drapeau à damier. Je rappelle que nous étions en un temps où les ravitaillements en essence étaient autorisés et la gestion de l'usure pneumatique était généralement moins importante que la gestion de la dépense du carburant, parce que sauver ne serait-ce qu'un seul tour d'essence pouvait faire toute la différence. Mais cette règle de 2005 avait certes le mérite de rebooster les audiences en renouvelant la hiérarchie parce que Bridgestone et Ferrari avaient chuté au profit de McLaren et de Renault, mais surtout elle a causé de nombreux scénarios catastrophiques. Grand Prix d'Europe, Nürburgring, l'usure de l'avant-gauche de Raikkonen en tête de course est telle que sa suspension éclate dans le dernier tour, manquant d'envoyer le Finlandais dans un retardataire. J'ai déjà proposé une chronique en torrent en détail sur la polémique du Grand Prix des États-Unis 2005 où, sur un ovale resurfacé, les voitures chaussées de pneus Michelin ne parvenaient pas à gérer leur usure. Ralf Schumacher, avec Toyota, se crachait violemment lorsque son pneu éclatait en essai libre 2, l'envoyant dans le mur à plus de 280 km/h et le mettant hors jeu pour le reste du week-end. Remplacé par Ricardo Zonta, le Brésilien rencontra exactement le même problème lors des séances suivantes. Résultat, les 14 voitures chaussées de pneus Michelin doivent se retirer de l'épreuve et malgré l'existence du Grand Prix de Belgique ou d'Abu Dhabi en 2021, cette édition à Indianapolis peut continuer à candidater comme Grand Prix le plus honteux de toute l'histoire du sport. La réglementation est retirée dès 2006, Michelin part en 2007 et on introduit la règle obligeant à changer de composé pneumatique pendant la course, règle qu'on utilise encore aujourd'hui afin de forcer les équipes à ne pas prendre trop de risques. Mais fin 2009, une nouvelle inquiétude surgit. Le retour des pneus slick s'est très bien passé, mais la disparition des ravitaillements en essence inquiète la FIA pour 2010. En roulant avec le plein, les équipes allaient naturellement limiter les arrêts au stand et on avait peur d'une répétition de 2005. En réponse, Bridgestone conçoit des pneus en titanium pour résister plus que nécessaire à la durée d'une course, ce qui est un exploit parce que normalement un pneumatique est fait avec de la gomme et non avec du titane. La gestion pneumatique devient un concept dépassé tant au niveau de l'usure que de la difficile mise en température des pneumatiques, mais une course va tout changer. Bridgestone avait annoncé son départ de la Formule 1 en fin d'année et il fallait trouver un remplaçant. Le Grand Prix du Canada n'avait pas eu lieu en 2009 pour resurfacer l'asphalte qui tombait en morceaux et la dégradation pneumatique était atroce. Les Red Bull de Vettel et Webber partaient en pneus durs et semblaient avoir l'avantage face aux McLaren et Ferrari en pneus tendres. Mais l'usure était telle que ce fut au 7e et 8e des 70 tours que Button, Hamilton et Alonso s'arrêtèrent tandis que Vettel et Webber s'arrêtèrent 5 tours plus tard. La course était purement illisible, Vettel perdit sa deuxième place du départ suite aux arrêts au stand, sans comprendre ce qui lui arrivait, tandis que Mark Webber, selon la stratégie Red Bull, semblait promis à la victoire, dut se réarrêter alors qu'il était en tête de course à cause de son usure excessive, offrant ainsi un doublé au McLaren qui avait le mieux géré leur com. Naturellement, ce Grand Prix eut l'effet d'une pilule bleue sur Bernie en pleine négociation avec Pirelli. Il fallait recréer cette imprévisibilité dans les Grands Prix en 2011, allant donc dans le sens contraire de ce que Bridgestone avait fait pour 2010. Et c'est un retour réussi pour Pirelli en 2011, des courses stratégiques imprévisibles qui, avec l'arrivée du DRS, double le nombre moyen de dépassements par Grand Prix, passant de 2 à 4. Ah ça va, je rigole. Mais Ferrari souffrait plus que jamais avec ses nouvelles gommes, tandis que McLaren alternait les bons et les mauvais week-ends. Seuls les Red Bull parvinrent à trouver l'équilibre parfait et dominent la saison. En 2012, pour rééquilibrer le jeu, Pirelli voulut aller encore plus loin. Et mission réussie, avec le record de 7 vainqueurs différents lors des 7 premiers Grands Prix. Mais les critiques se font très fortes de la part des pilotes qui n'arrivent pas à comprendre et à exploiter ces pneus, tandis que les ingénieurs déplorent que non seulement l'usure est imprévisible, mais que dès que la fenêtre d'exploitation des pneus est terminée, ils peuvent perdre jusqu'à 7 secondes au tour. Mais c'est au Grand Prix d'Angleterre en 2013 que le tout pour le spectacle va prendre un coup lorsqu'une série d'explosions de pneumatiques vient entacher la course, passant pas loin de quelques accidents extrêmement dangereux. En 2014, un concept plus conservateur est employé, ce qui réduit le chaos des courses, et la domination outrageuse de Mercedes, ainsi que l'introduction controversée des V6 hybrides, se chargent de couper une bonne partie des audiences. Pendant les Grands Prix, on voit un schéma assez classique s'installer. Les pilotes ne font qu'un seul arrêt, 90% du temps, ils roulent autant à l'économie que possible pour gérer leur usure et leur consommation de carburant, et même les qualifications deviennent une blague. Pour le challenge ou le spectacle, les pilotes passant en Q3 avaient un handicap de devoir prendre le départ avec le pneu qui a servi à faire leur meilleur tour en Q3. Mais cela avait occasionné plus d'une fois des Q3 absurdes avec presque aucun pilote en piste puisqu'ils préféraient sacrifier leur qualification pour avoir un train de pneumatique neuf pour la course. Cela a été changé en les forçant à non seulement utiliser le train de la Q2 pour la course au lieu du train de la Q3, mais en leur donnant un train supplémentaire en Q3 pour être sûr qu'ils roulent. Avouons qu'il y avait une part de fun à voir les équipes tenter de rouler avec un pneu plus lent en qualification pour essayer d'optimiser le Grand Prix, mais en réalité ça ne portait presque jamais ses fruits et seules les équipes du peloton étaient handicapées. Combien de fois on entendait des pilotes dire que finir 11e de la qualif, c'était mieux que de finir en 8e. La règle a disparu depuis ces dernières années et je vous passerai l'historique des pneus aux noms absurdes, de simples soft et hard. On était passé entre autres par le medium, qui semblait assez compréhensible, et puis ensuite on a eu le super soft, puis l'ultra soft, puis le super hard, puis l'hyper hard, et sans oublier l'ultra giga mega smash giga hard et le David Coulthard. Et arrive 2022 avec des roues 18 pouces Caprice de Pirelli qui, en tant que seul volontaire pour faire des pneus à la F1, a obtenu gain de cause pour que les voitures roulent avec des pneus qui ressemblent à ceux du commerce. Comme ça, plutôt que d'avoir un consommateur moyen qui se dit « Waouh, Pirelli fait des pneus super impressionnants, ça fait grave voiture de course, ils sont trop forts chez Pirelli », eh bien celui-ci se dise « Ah c'est cool, ça ressemble aux pneus de ma Punto ». Avec cela arrivait un nouveau cahier des charges totalement absurde. Les pneus durs doivent être plus lents 2 secondes au tour au bout de 22% de la course, les pneus médiums doivent être plus rapides de 1 seconde 2 par rapport au hard, mais ralentir de 2 secondes au tour au bout de 18% de course, et les pneus tendres doivent être plus rapides de 2,2 secondes, mais perdre 2 secondes au tour au bout de 10% de course. Il n'y a pas de moyen simple de le dire, mais en soi, c'est assez compréhensible si tu réfléchis un peu. Le truc, c'est que c'est, sur le papier, totalement absurde. Mais le pire, c'est que non seulement Pirelli a réussi à faire quelque chose qui s'en rapproche, mais en plus, il a fallu presque 2 ans pour qu'on ait une controverse Pirelli qui, comme je le disais au tout début, n'en est pas une. Donc ça compte pas. Cela dit, les pilotes n'apprécient quand même pas cette recette 18 pouces qui donne des pneus qui sont longs à monter en température et qui conservent assez mal cette température. Mais j'ai dit le mot maudit. Après une si longue remise en contexte, il est temps de replonger dans les controverses Pirelli. À son retour en 2011, Pirelli avait trouvé une solution miracle pour développer ses gommes au long de l'année 2010. Toyota se retirait de la Formule 1 et ils avaient pu saisir leur TF109 pour réaliser leurs essais privés et ils avaient même engagé leurs propres pilotes d'essais, qui étaient généralement des pilotes de Formule 1 au chômage. On a eu Nick Heidfeld, Lucas Di Grassi et Rémi Alguersuari. Mais fin 2012, la Toyota est trop obsolète et cette fois, pas de solution miracle. Pirelli a peur que trouver un accord avec une équipe du plateau ne la favorise trop, et pour 2013, ils sont autorisés à organiser des tests privés avec les équipes de Formule 1. En 2013 donc, Mercedes émergeait gracieusement en début d'année, avec quelques podiums, mais leur usure pneumatique était totalement absurde. On n'était même pas surpris de les voir verrouiller la première ligne en Espagne tant ils étaient rapides, mais Hamilton s'effondrait rapidement au départ et terminait 12e, et Rosberg défendait sa pole position avec hargne, mais son bras en 6e position en fin de course. Mais alerte polémique ! Quelques jours plus tard, quelqu'un prend une photo du circuit barcelonais, une Mercedes est en piste. Impossible de déterminer le pilote qui roulait car son casque était sans dessin. Le week-end suivant à Monaco, Rosberg fait une nouvelle pole et gagne la course. Comme je le disais, Pirelli était autorisé à faire ce type de test, mais l'absence de communication auprès de la FIA et des équipes rend l'affaire éligible à une enquête, mais en plus, Pirelli aurait dû proposer aux autres équipes de participer, ce qui fait que et Mercedes et Pirelli doivent participer à un procès.
S'il vous plaît.
Oui ?
Un procès au tribunal de la FIA contre Mercedes et Pirelli a lieu, ces derniers étant au passage représentés par l'avocat de Pat Symonds lors du procès du Crashgate. Bonne chance Pirelli. Il est révélé que Pirelli a fourni de nombreuses informations de ses tests à Mercedes, que contrairement au règlement, ils n'ont pas utilisé une Formule 1 ancienne de plus de 2 ans, et surtout que ce sont bien leurs pilotes titulaires qui ont roulé, ce qui renforce l'idée selon laquelle le test a profité à Mercedes, ce qui n'aurait pas dû arriver. Le fait que les deux pilotes portaient des casques sans motif dessus renforce l'idée selon laquelle ils ont tenté d'anonymiser le plus possible ces tests, et renforcé lorsque la seule défense rapportée par Mercedes, c'est que leurs pilotes sont extrêmement populaires et qu'ils ne voulaient pas qu'ils soient embêtés par des fans, sachant que, encore une fois, les fans ne pouvaient pas savoir qu'il y avait des tests puisque personne ne savait qu'il y en avait et que du coup les tribunes n'étaient pas ouvertes. Mercedes explique qu'ils avaient l'accord de Charlie Whiting, directeur de course et plus grand représentant de la FIA lors des week-ends de Grand Prix, mais la FIA insiste que cela n'a aucune valeur juridique. Mercedes reçut une réprimande et l'interdiction de participer aux 3 jours de tests privés prévus à Silverstone le mois suivant. Pirelli, quant à eux, bah, ils n'ont rien eu vu qu'ils sont un prestataire et qu'ils ne sont pas engagés contractuellement. Mais la domination de Mercedes à partir de la saison 2014 contribue à raviver cette polémique, même s'il est totalement idiot de les associer. Bah, Mercedes gagnait parce qu'ils avaient une super voiture et un super moteur et que, bon, bah, quand t'as une super voiture, c'est beaucoup plus facile d'économiser tes pneus. Une nouvelle controverse en 2015 lors du Grand Prix de Belgique. En essai, Nico Rosberg fut victime d'une inexplicable explosion d'un pneu. Par mesure de précaution, Pirelli encouragea les équipes à ne pas dépasser un certain nombre de tours avec leurs pneus, ce que Vettel et Ferrari ne firent point et furent punis par une explosion juste à la sortie du rayon. L'Allemand est furieux et de nombreux pilotes joignent sa colère.
And were Ferrari being a little bit too greedy in the end, do you think?
No.
You were happy with the decision and you wanted to stay out. You could have got to the end, you felt?
Well, how many laps I was missing? Not many. And things like that are not allowed to happen, full stop. If it happens 200 meters earlier, I'm not standing here now. I'm with 300 stuck in Urush, so I don't know what else needs to happen. I think it's a sort of theme that keeps going around. Nobody's mentioning it, but it's unacceptable.
Car autant qu'on pouvait blâmer une demande assez absurde en 2011 et 2012 avec des gommes en papier mâché, autant la sécurité avait été remise en avant suite aux incidents de 2013 et l'usure d'un pneu ne devrait jamais mener à une explosion. Ferrari eut à nouveau l'occasion de pester en 2017, toujours à Silverstone, avec ses deux pilotes, victimes de problèmes connus, et j'ai pas besoin de vous rappeler la fin de course de l'édition 2020. L'année suivante, Lance Stroll et Max Verstappen sont victimes d'explosions à haute vitesse à Bakou. Une enquête de Pirelli démontre que c'est de la faute de Red Bull et de Verstappen, puisque les pneus qu'ils avaient une pression plus basse que ce qui était recommandé. Ce qui, soyons honnêtes aussi, n'est pas non plus très malin de la part de l'équipe, parce qu'un pneu sous-gonflé a beaucoup plus de chances d'exploser qu'un pneu qui est gonflé correctement. On peut quand même souligner que le règlement n'imposait pas aux équipes de respecter ses recommandations. Ce qui est en soi aussi une responsabilité de la FIA, du coup. Alors vous n'aurez pas de problème à constater, si vous êtes là depuis très très longtemps, que cette émission est une remise à jour d'une émission que j'avais faite en 2019 suite à de nouvelles polémiques concernant les pneumatiques Pirelli. Ceci étant dit, je pense que j'en tire toujours les mêmes conclusions, à savoir que Pirelli, le problème des pneus qu'ils affichent, ce n'est que la face visible du problème de la Formule 1 actuelle, et le fait qu'aucun autre manufacturier ne se batte vraiment pour les concurrencer ou pour prendre leur place est sûrement assez parlant. La Formule 1 moderne est une anomalie physique, ce sont les voitures les plus rapides du monde et elles n'ont jamais été aussi rapides de toute l'histoire que sous l'ère Pirelli. Sans faire un cours sur les pneus, il est bon de rappeler qu'en roulant, un pneu est conçu pour se déformer, pour s'adapter aux bosses, aux transferts de masse, etc. Autrement, même la plus lente des voitures glisserait en virage et chaque freinage serait vraiment dangereux. Mais non seulement ces F1 modernes peuvent régulièrement se prendre 4 à 5G de force latérale en virage, mais en plus, jamais les Formule 1 n'ont été aussi lourdes. À vide, une F1 moderne pèse 800 kg. J'ai pas besoin de détailler la charge absurde qu'un pneu endure pendant ne serait-ce qu'un seul tour. Couplé à cela un cahier des charges qui change régulièrement et surtout qui impose une vitesse d'usure des gommes, ce qui était aussi du jamais vu en Formule 1, et le tout avec un nombre de tests de plus en plus limité, c'est compliqué. Ça fait 12 ans que Pirelli fait le sale boulot de la Formule 1 parce que, pour moi, la réalité c'est que la Formule 1 n'a plus rien pour être à la hauteur du spectacle qu'elle essaie de vendre. Alors oui, la Formule 1 aura toujours de nouveaux fans, car le concept même de ce sport est merveilleux, et c'est grâce à cela que malgré 3, bientôt 4 ères de domination insupportable, j'ai toujours su être présent devant les Grands Prix depuis 24 ans, et que j'ai aussi appris à aimer toutes les ères de la Formule 1 depuis ses tout débuts, parce que, quelle que soit l'ère, il y a toujours quelque chose de différent à aimer dans le sport. Mais avec des pilotes qui ne commettent plus d'erreurs, des voitures qui n'abandonnent plus et des Formule 1 qui ne sont simplement pas adaptées à la course automobile, il ne reste pas grand-chose pour faire perdurer la dimension imprévisible de ce sport devenu si mathématiquement logique au point où une purée d'IA vient nous dire dans combien de temps machin se fera doubler par bidule. Ce n'est pas à Pirelli ou n'importe quel manufacturier pneumatique de procurer du spectacle à la Formule 1. Pirelli, la seule chose qu'on devrait leur demander, c'est de faire des pneus qui tiennent pendant tout un Grand Prix avec lesquels les pilotes peuvent attaquer. Si la course est chiante parce qu'il n'y a aucun arrêt, eh bien c'est ainsi, c'est le sport, c'est la Formule 1 qui le voudra, et si jamais, à certaines occasions, ça fera le contraire, et peut-être que là, il y aura des stratégies qui se mettront en place et ce sera fun. Mais ce n'est pas aux pneus de procurer du spectacle, et qui plus est, pour le rappeler, ce ne sont pas eux non plus les responsables de ce qui s'est passé au Qatar, ça tient totalement des circonstances de piste et de la nature même du tracé et des vibreurs. Pour conclure, je dirais juste que la Formule 1 pouvait créer du spectacle bien avant que les pneus ne soient un sujet de discussion, ils sont un facteur d'un plus grand tout, comme par exemple Colissimo avec La Poste. Bref, leave Pirelli alone. Bisous.